Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Le copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit
« T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne !»
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde.
Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur.
Elle nous connaît dans les coins, la frangine.
Bonjour et bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et tous les vendredis je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné en se penchant sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou pour les sorties DVD et Blu-ray. Avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie. Bonjour Marie.
Salut Clémence.
Et Stéphane.
Salut Clémence.
Salut Stéphane. Et puis à la technique c'est toujours Alain.
Salut Clémence.
Salut Alain. Et c'est Latex qui s'est occupé de l'habillage sonore. Cette semaine, on va parler de sorcières. Puisque le remake de Sacrée Sorcière n'est toujours pas sorti, on s'est rabattu sur The Craft Legacy. Ça raconte l'histoire de Lily, une lycéenne solitaire qui débarque dans son nouveau lycée après un déménagement. Pas facile de s'intégrer, mais elle fait la connaissance de Frankie, Tabby et Lourdes, un trio qui pratique la sorcellerie. Et ça tombe bien, elles ont besoin d'un membre supplémentaire pour compléter leur coven. Enfin au complet, la bande de sorcières en herbe vont enfin voir leur pouvoir décuplé. Ce scénario vous dit quelque chose ? Rien d'étonnant à ça, The Craft Legacy est la suite du film The Craft Dangereuse Alliance, sorti en 1996. À l'époque, ça a été un succès auprès du public adolescent, le film se démarquant des teen movies plus classiques avec son atmosphère plus sombre. Il avait été question d'une suite direct-to-video qui finalement était tombée aux oubliettes. Et puis en 2016, Sony annonce vouloir produire un remake du film, mais le projet reçoit un accueil très négatif, autant par les fans que par les acteurs, et le studio arrête de communiquer dessus. Finalement, le projet ressort à nouveau des cartons début 2019, cette fois-ci avec l'idée d'en faire un reboot. Et finalement, c'est une suite qui se déroule de nos jours, réalisée par Zoe Lister-Jones, qui voit le jour, avec au casting des têtes connues, puisqu'on retrouve David Duchovny et Michelle Monaghan, qui sont de la partie. Alors, cette suite, est-ce qu'elle vaut le coup ? Qu'en pensent nos chroniqueurs ? J'espère que vous avez préparé votre résumé façon pyramide. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi ?
Alors moi, je vais dire bonnes intentions.
Bonnes intentions. Très bien.
Stéphane, je vois la... Fossoyeur.
Fossoyeur. Je vois la petite goutte douceur. Stéphane, il n'aime pas ça.
Ah, mais c'est surtout... Ah si, moi, j'aime bien l'idée du mot-clé, hein, tu vois, mais j'aime bien essayer de trouver un truc un peu de genre, je passe à tes tristesses, dégoût, nullité, tu vois, donc j'essaye de trouver un truc un peu, voilà, que je développe derrière, c'est tout, quoi.
Alors, Fossoyeur d'un côté, bonnes intentions de l'autre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. On va développer ça tout de suite. Qui veut commencer ? Qui ?
Alors moi, je vous laisse commencer. Je vais dire pourquoi. J'étais déjà trop vieux quand l'original est sorti. Hein, je le reconnais et je le concède à l'époque. Je pense que je suis pas du tout la cible. Je suis là parce que en fait, il y avait de la lumière. On enregistre chez moi. Donc en fait, je me suis dit allons-y quoi. Et donc je me suis tapé le film. Mais c'est vrai qu'à la base, je suis pas du tout le public visé. Mais pas du tout. Alors, au cas où on en doutait.
C'est vrai que pour la petite histoire, on aurait dû avoir Eric Vogel avec
Eric Vogel,
nous.
Voilà, qui, comme il le dit lui-même, a une jeune gotte de 16 ans au fond de lui. Et du coup, il était parfait pour le film. Il l'attendait beaucoup, mais il n'a pas pu venir.
Il avait beaucoup aimé le premier, et malheureusement, il n'a pas pu venir. On espère qu'il nous donnera son avis sur le répondeur. Donc en attendant, Marie, toi ? Qu'est-ce que tu en as pensé ?
Bah alors pour le coup, c'est sûr que Stéphane, t'es pas la cible. Nous, avec Clémence, on est peut-être un petit peu plus la cible parce qu'on avait 12-13 ans quand l'original est sorti et on l'avait bien aimé. Et du coup, moi, je partais sur bonnes intentions, parce que c'est un film qui est plein de bonnes intentions, en fait. C'est un film qui déjà veut caresser un peu dans le sens du poil les fans du premier, avec... y a plein de scènes qui sont reprises, la scène de lévitation, l'écran du titre sur le ciel, il y a le bouquin The Craft qui est dans le premier qui se retrouve dans celui-là, et puis le pitch, en fait, c'est au départ, c'est exactement le même, c'est comme tu disais, une des scènes qui arrive et qui rencontre d'autres apprentis sorcières, et en fait, même si c'est une suite qui fait sens à la fin du film, en fait, c'est plutôt un remake ou un reboot. D'ailleurs, en français, le titre, c'est Les Nouvelles Sorcières, et c'est un peu la nouvelle histoire, la même histoire, mais remise au goût de 2020. Et du coup, c'est un peu compliqué, parce que c'est un film qui est super woke, et moi, j'ai rien contre les films woke, je suis à fond pour l'inclusion, la représentation et tout, sauf que là, en fait, c'est vraiment un film de quota. Toutes les actrices... et tous les personnages, donc des quatre sorcières, elles ont une origine différente. Il y en a une qui est un personnage de femme trans et qui est jouée par une femme trans, et c'est très bien. Mais en fait, c'est juste des caractères qui sont... Enfin, c'est pas des caractères, c'est des personnages qui sont là, des fonctions, mais elles sont pas caractérisées, elles ont pas de personnalité. Et du coup, c'est hyper plat. Et en essayant de montrer des personnages, voilà, il y a une personnage noire, mais en fait, être noire, c'est pas un caractère, quoi. Et idem pour la personnage trans, voilà, elle le dit deux, trois fois, puis en fait, c'est toutes les mêmes, on sait pas ce qu'elles font, elles ont pas de... On comprend pas pourquoi elles font de la magie non plus. Et c'est très bizarre, parce que du coup, quand elles font de la magie, ça met des paillettes dans leur bain, ça leur met du maquillage paillettes sur les yeux, elles ont une petite flamme qui sort de l'ongle, et au final, je sais pas si je vais chez Lush ou si j'achète un briquet, j'ai les mêmes résultats. Du coup, je comprends pas, en fait, on comprend jamais pourquoi elles veulent faire de la magie, alors que dans le premier, les personnages étaient un petit peu caricaturaux, mais au moins elles avaient des pseudos arcs narratifs qui faisaient qu'on comprenait pourquoi elles voulaient faire de la magie. Il y en avait une qui voulait sortir de sa condition de white trash, il y en a une qui avait des brûlures, des cicatrices, qui voulait les faire disparaître, et donc il y avait au moins, il se passait des choses et le film avançait, alors que là, en fait, moi je l'ai vu en salle, je l'ai revu là pour préparer l'émission, je me suis dit c'est pire la deuxième fois, en fait c'est long mais il se passe rien, quoi. On a des petits montages qui montrent la progression de leurs skills en magie, mais en fait c'est hyper inoffensif, elles font apparaître des petits papillons, elles frisent un peu le temps, mais c'est mignon, quoi. Et c'est un film du coup qui fait jamais peur. Le premier était pas effrayant, mais il y avait des scènes un peu horrifiques, c'était un peu dark, l'héroïne se faisait un peu hanter par les autres quand elles se mettaient un peu les unes contre les autres. Il y avait cette scène où Nancy a des serpents, ses doigts qui se transforment et ses cheveux qui se transforment en serpents. Il y avait un petit peu des trucs horrifiques, et là en fait je sais pas, c'est des sorcières Instagram, et alors c'est mignon, mais moi j'ai perdu mon temps, quoi. Deux fois.
Et c'est vrai que le côté sorcière Instagram, c'est un bon qualificatif. En fait, tous les personnages secondaires, enfin pas secondaires, on va dire qu'au-delà de l'héroïne principale, les trois autres sorcières sont quelque part copie conforme. En tout cas, elles n'ont pas vraiment de background, ou c'est à peine effleuré. Là où dans le film originel, elles avaient chacune, comme tu le dis, un arc narratif avec un vrai enjeu. Et pour l'époque, hein, c'était 96 quand même, il faut le rappeler, je trouve qu'à l'époque, c'était traité avec pas mal de finesse. On parlait de problématiques autour du racisme, autour des violences familiales, des choses qui n'étaient pas abordées dans les teen movies de l'époque, et qui faisaient que ça tranchait par rapport aux autres films des années 90 qui s'adressaient au même public. Là, on n'a plus du tout ça, effectivement. On a cette personnage trans qui ne subit absolument... aucune brimade, alors qu'on sait que c'est quelque chose de problématique pour ces personnes-là à l'adolescence, que c'est une cause de suicide d'ailleurs. Et là, elle vit sa vie sans avoir personne qui...
Mais à la limite, tant mieux, puisque c'est bien aussi qu'il y ait des personnages trans dont ce caractère-là ne fait pas partie forcément d'un arc narratif, mais il n'y a rien d'autre autour non plus.
Bien sûr, je ne dis pas qu'il faudrait qu'elle soit bully. Pas du tout, c'est pas mon promo, mais simplement, ça n'apporte rien à son personnage.
Non, c'est un quota.
C'est un quota, tout comme les autres personnages, finalement.
Ouais, comme le personnage noir qui est pareil, qui est caractérisé par trois phrases quand elle joue à Action Vérité ou je sais pas quoi, et qui dit qu'elle a peur pour la sécurité de son frère... Et donc, petite allusion à Black Lives Matter, elle dit qu'elle aimerait bien avoir plus d'amis noirs et qu'elle aime Beyoncé. Ouais, super, t'es noire et t'aimes Beyoncé. Alors, okay.
Non, elle aime pas Beyoncé.
Ouais, mais après, elle dit j'aime pas, je l'adore. Et en plus, c'est hyper drôle, tu vois. Non, mais voilà, mais je veux dire, c'est pas des... En fait, voilà, être noir, être trans, c'est pas un trait de caractère, une personnalité, et il y a rien derrière, du coup. Comme en plus, elles ont pas de problème, parce que vite fait, on nous dit que c'est des outcasts, que c'est un peu les outsiders et tout, bah en fait, elles sont pas vraiment bullies au lycée, et tant mieux pour elles, hein, mais c'est
parce qu'on les regarde de travers, tu vois.
Ouais, on les regarde.
Quand elles marchent dans la cafétéria, on les regarde de travers.
Ouais, mais je pense qu'elles aiment bien qu'on les regarde de travers aussi, tu vois. Mais non, mais il y a pas de ouais, elles sont emmerdées par le mec qui est l'archétype du quarterback douchebag qui se moque de l'héroïne parce qu'elle a ses règles. Et au final, on a une scène anti-Carrie qui, elle, pour le coup, était bullie par ses camarades de classe, où elle a ses règles, et les trois se précipitent dans les toilettes et lui prêtent un short que j'ai porté en sport, voilà, et c'est alors c'est très mignon, mais du coup bah ouais, en fait elles ont pas de problème, donc elles font de la magie parce que c'est mignon.
C'est vrai qu'elles ont pas de réels problèmes dans leur vie à résoudre, contrairement aux héroïnes du premier.
Il n'y a pas d'enjeu dans le film, hein, tout bêtement, si c'est ça le truc.
Il y a un enjeu, c'est David Duchovny.
Voilà, mais David Duchovny, c'est encore un autre truc, parce que c'est à la limite, moi, en fait, le quand je dis je ne suis pas du tout la cible, c'est aussi dans le traitement. C'est-à-dire que, en gros, Dangereuse Alliance, en fait, à l'époque, j'avais 20 ans, je n'étais pas si vieux que ça, quoi. Ça pouvait me concerner, tu vois, dans l'absolu. Mais c'est vrai que j'étais complètement... je trouvais que ça avait l'air... Enfin, pour moi, c'était un film qui était dans l'air du temps à l'époque, tu vois. Et je trouve que là, la problématique, c'est exactement la même. C'est-à-dire que c'est dans l'air du temps de 2020, comme Dangereuse Alliance était dans l'air du temps de 96. Je me rappelle, mais littéralement, absolument pas du tout de Dangereuse Alliance. C'est-à-dire que je l'ai vu une fois. J'ai vraiment littéralement zappé le film. Je me rappelle juste des actrices, parce que c'était des petites vedettes montantes à l'époque. Hein. Il y avait Neve Campbell qui allait devenir l'égérie de Scream. Férouza Balk, elle avait fait quelques films aussi à l'époque. Elle était notamment, je crois, dans Le Docteur Moreau, ce genre de choses, quoi. Mais c'est vrai qu'en fait, en voyant, j'ai revu la bande-annonce après avoir vu celui-là, là, et effectivement, la bande-annonce, en fait, il y a du fantastique.
Ouais, il se passe là, des trucs. Rien.
Et tu m'as pointé un truc de doigt, Marie, en fait, avant qu'on enregistre, ce qui était assez intéressant, c'est que la problématique woke en soi du film, c'est surtout que tu sens que du coup, ça les retient complètement. C'est-à-dire, ils osent plus utiliser. Et c'est très vrai, en fait, ce que tu dis, quoi. Ils osent plus utiliser certains trucs, de peur, en fait, de éventuellement d'offusquer quelqu'un, en fait, avec, je sais pas, un pouvoir fantastique, un truc qui pourrait vouloir dire quelque chose. Donc, ce qui leur reste, au final, dans le film, c'est d'avoir un masculiniste interprété par Duchovny, qui... Déjà, tu prends pas Duchovny pour jouer un rôle comme ça. Enfin, je veux dire, à la limite, je blaguais en regardant le film, parce que je l'ai vu avec Arnaud, mais Arnaud a décliné l'invitation, quoi.
Il a refusé même de s'asseoir
non,
à notre
non,
table.
Il s'est dit non, c'est bon. Mais en fait, mais c'est normal, on n'est pas la cible. Hein. Encore une fois, c'est vrai. Mais le truc, c'est que en fait, tu prends quelqu'un qui représente vraiment ça dans ce cas-là. Au cinéma, c'est-à-dire tu prends Stallone ou tu prends et encore je dis ça, enfin tu vois le personnage viril macho, ce que tu veux, etc. tu le prends, et tu prends un vrai acteur. Duchovny n'a jamais représenté ça, donc je trouve ça déjà très étonnant qu'ils aillent chercher ce mec-là. Bon, moi Duchovny, j'ai jamais trop déliré dessus non plus, hein,
c'est peut-être pour le côté un petit peu fantastique qu'ils l'ont pris, parce que c'est pas juste un mascu, c'est aussi un méchant magicien.
Ouais, mais sauf que tu vois, alors ça c'est ça arrive au bout de une heure.
Ah, c'est la toute, fin du film.
Alors,
hein.
qu'en fait, il reste 10 minutes. Du coup, les deux enjeux qu'il y a, c'est comment, en fait, tu vas gérer ce problématique-là, c'est-à-dire le problématique de Duchovny, qui est effectivement présenté comme unilatéralement comme un connard de mec, quoi, macho, ce que tu veux, etc., etc., tu vois, dans tout, y compris dans son comportement avec les autres garçons, avec tous ces trucs-là, etc., etc., vous n'êtes pas des faibles, vous n'avez pas intérêt à être des faibles, etc., etc.
Tu n'as pas le droit de pleurer.
Non, mais tout ce discours, voilà, ce qu'on dit masculinité toxique. Et de l'autre côté, le deuxième enjeu, c'est comment on va raccorder ça avec le film original. Et c'est là, en fait, où, pour moi, on rentre dans l'aspect fossoyeur, en fait, du film. C'est-à-dire que, encore une fois, j'ai pas d'attachement, en fait, à l'original. Donc, quelque part, je peux pas je peux même pas dire que je suis choqué par le traitement de cette suite, en fait. Parce que ça se veut une suite, du coup, effectivement. Mais... je vois par contre la démarche de Jason Blum, qui est le producteur, en fait, qui va chercher, en gros, si tu veux, un titre qui a une valeur sur le marché, c'est-à-dire pour ça comme ça, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il le voit comme ça, lui, et en fait qui va essayer de jouer avec, en fait, et de faire finalement un film qui, à mon sens, et c'est la plupart de c'est le problème que j'ai avec la plupart de ses productions, va instantanément vieillir, en fait. Encore une fois, moi j'ai pas revu donc Dangereuse Alliance pour l'occasion, donc je doute que ça passe bien aujourd'hui, mais en fait le truc c'est que celui-là c'est sûr, j'en suis certain, en fait, que dans 15 ans, en fait, les gens le regarderont et se diront mais Voilà, déjà, il n'a pas plus marché que ça, mais bon, il est sorti en ouais, période bah, COVID,
en fait, ici, il est sorti, je crois, juste avant la le veille, deuxième confinement, deux jours avant, ouais, un truc ouais. comme ça. Et aux États-Unis, il est sorti direct en VOD, je crois.
Ah, c'est direct en
ouais,
VOD,
ouais. Ouais, ouais, il n'a pas fait mais, de sortie sale.
Donc voilà, donc, le truc, c'est que, bon, là, c'est, on va dire, c'est un coup pour rien dans la situation actuelle, quoi. Mais on peut dire la même chose, c'est-à-dire, même si ça a été un carton, son reboot d'Halloween, pour moi, c'est la même problématique. C'est-à-dire, en fait, déjà, il oublie 40 ans de film derrière, que moi, j'aime pas particulièrement, à part l'original de Carpenter, mais comment dire. En disant, voilà, ça c'est la vraie suite, si tu veux, en posant ça comme ça, comme si c'était un fait, et t'as envie de dire, non, c'est pas un fait, en fait. Il y a 40 ans d'histoire avec un personnage, en fait, qui existe à cause du premier, parce que c'était un carton, mais qui est resté dans la conscience collective aussi à cause de toutes les autres suites, bonnes ou mauvaises. Donc tu peux pas te pointer, faire ça, parce que finalement, le film en question, il est pas terrible non plus, il est clairement pas à la hauteur, en tout cas, de l'original. Mais même j'ai envie de dire finalement pas à la hauteur du personnage non plus, pas à la hauteur du croque-mitaine quoi. Et là c'est la même problématique, pour moi c'est une problématique de Fossoyeur, de la même manière que voilà, là si tu veux sur un truc comme The Craft, finalement fondamentalement ils auraient mieux fait de pas du tout essayer de l'attacher à l'autre, se dire bah c'est notre version aujourd'hui.
Ouais, mais le truc c'est qu'il l'avait, s'il l'avait pas attaché, par exemple moi je serais pas allé le voir au cinéma parce que j'y suis allé sur un nom, tu vois, et ça aurait été Les Sorcières de je sais pas quoi, j'aurais jamais mis les pieds dans la salle
bien
quoi.
Sûr, donc mais ce que je veux dire c'est quand je dis l'attacher, c'est il l'attache au nom, mais par contre en fait je parle de remake, si tu veux, il aurait pu faire un remake et en fait c'est dire repartir de zéro quoi, si tu veux. Là le problème c'est que on spoil un peu hein, pour ceux qui sont éventuellement intéressés par le film quoi.
On a l'habitude de spoiler.
Voilà, bah c'est un peu notre truc, c'est vrai, mais en fait l'attachement au film, il est littéralement dans les cinq dernières secondes.
Ouais, c'est vraiment le dernier plan.
C'est le dernier plan du film, quoi. Et donc
c'est le dernier plan qui a achevé de m'énerver déjà après avoir subi tout le film. Et tu vois ça et tu dis, mais c'est le coup de grâce, en fait.
Et c'est ce que tu disais, parce qu'en fait, apparemment, si t'as vu la bande-annonce...
Ouais, parce que dans la bande-annonce, dans la bande-annonce que moi, j'ai vue après, mais dans la bande-annonce, quand elle trouve a priori son dossier d'adoption, il y a un Polaroid et donc une photo de sa mère qu'on reconnaît du premier film. Et du coup, donc en plus, si t'as vu le trailer, tu le sais déjà, donc le peu de surprise nul est déjà annihilé, c'est compliqué. Voilà,
le big reveal, donc, c'est que l'héroïne, qui s'appelle Lily, est la fille, en fait, la fille d'une des sorcières du premier épisode,
celle qui finit en asile, qui a brillé et qui
termine, on la voit la dernière scène, qui est d'ailleurs extrêmement bien jouée, où elle est attachée sur un lit et en train de parler à Manon, cette entité que les filles invoquent. Et donc, voilà, manifestement, Lily est sa fille.
Et Lily, et son vrai nom, c'est Lilith, parce que c'est super subtil. Moi, j'aime bien.
Non mais voilà, enfin, après moi je pense que j'ai envie de dire c'est un souci, mais c'est vrai comme je suis pas concerné par le film c'est compliqué de dire c'est un souci, mais c'est une démarche en tout cas on va dire de la part de Jason Blum, c'est-à-dire que c'est une démarche générale et je pense que le film subit ça aussi parce que quelque part effectivement ce qu'on a pointé du doigt, c'est-à-dire l'aspect woke où on sent en fait l'obligation de traiter, en fait l'obligation de mettre un personnage trans, à la limite en fait je veux dire ils auraient pris un acteur trans, ils auraient pris un truc, ils l'auraient pas juste pas dit. Ça aurait tout aussi bien fonctionné, en fait, et ça aurait pas été un besoin...
Ouais, en fait, tout est souligné, tout est hyper, hyper lourd, quoi.
Voilà, elle le dit ouvertement, c'est-à-dire, elle le dit une fois, voilà, on passe à autre chose, quoi. Moi, je suis d'accord, enfin, après, je suis d'accord dans l'absolu que c'est pas un problème de montrer un personnage comme ça positif, au contraire, quoi, mais en fait, il faut au moins lui donner quelque chose à bouffer, quoi.
Mais aucune, de toute façon,
on a bien aimé qu'elle ait un vrai rôle.
Bah, c'est ça, un truc à bouffer, et puis en fait, qu'elle ait une trajectoire, quoi. Même si c'est une trajectoire classique, etc.
Mais d'autant plus que s'il y avait une réelle intention d'être woke dans le film, ça aurait été une super occasion pour montrer ce que les personnes transgenres, les ados transgenres subissent quand elles sont jeunes. Et là, c'est pas quelque chose.
Moi, j'ai envie de dire, ne serait-ce que par rapport à leur changement dans leur corps à eux et dans leur façon de percevoir la chose, c'est-à-dire même pas forcément d'avoir quelqu'un qui va les agresser à cause de ça, mais tout simplement en fait de montrer ce que ça peut être comme parcours, ce que le film ne fait pas.
Creuser le personnage.
Mais de toute façon, le film ne le fait sur rien parce que globalement, l'héroïne tombe amoureuse d'un garçon. C'est pareil, il n'y a pas d'enjeu. Est-ce qu'il m'aime pas ? Non, c'est, en fait, elle claque des doigts, c'est réglé.
Le garçon...
Parlons-en,
Timmy. Dans une scène, donc ce garçon qui, au début du film, est le bully, comme tu disais très bien, le quarterback dans toute sa splendeur, qui, suite à un sort jeté par les filles, devient l'incarnation même du mec woke, super, bienveillant, éveillé. Et qui avoue dans un grand moment d'émotion sa bisexualité, et on se dit il y a quelque chose peut-être qui va se passer, qui va être intéressant. Et finalement, en fait, non. Après avoir tiré des larmes aux quatre filles en faisant cet aveu, tout de suite, enfin dans quelques scènes suivantes, il finit par embrasser l'héroïne et tu te dis bon. Du coup, c'était quoi l'intérêt ?
Bah, c'est surtout, en fait, il faut cligner des yeux déjà pour le voir changer de truc. Si tu clignes des yeux et tu te rends pas compte qu'elle lui a jeté un sort, en fait, si tu veux, bah, en fait, tu te dis, mais puis, c'était pas l'enculé, lui, c'était pas le connard de service, tu vois. Et en fait, non, tu vois. Donc, tu changes de truc. L'autre point, moi, en fait, un peu problématique là-dedans pour moi, c'est que. En fait, je crois en fait qu'il y a une histoire de filtre d'amour, c'est ça, dans le premier, en fait.
Ouais,
donc,
ouais.
Ça
ouais.
renvoie un peu à une logique un peu similaire, on va dire, dans celui-là. Mais en fait, le problème, c'est que avant en fait de que ça soit un filtre d'amour, c'est un filtre de je suis d'accord avec vous, vous avez raison en fait sur votre combat. Et là, tu fais.
Et du coup, elle tombe amoureuse de lui à partir du moment où il est devenu super woke et qu'il est.
En sachant que c'est fake.
Voilà, en sachant que c'est.
Voilà. Donc en fait, je trouve ça hyper étrange parce que je sais pas ce que ça révèle globalement en fait, en tout cas à tout prendre en fait de la façon dont les instigateurs du film en fait réfléchissent. Et tu te dis, mais en fait. Il n'y a pas de discussion, quoi.
Et ça, en plus, c'est
d'accord ou t'es pas d'accord, et en fait, on te met un sort, et si t'es d'accord, ah bah là, t'es des nôtres, et en fait, on peut éventuellement t'apprécier, tomber amoureux, blablabla, etc. Et c'est bizarre, comme logique.
Et ça, en plus, c'est l'opposé du premier film, parce que dans le premier film, elle jette un sort, et donc, il tombe amoureux d'elle, il la harcèle, il va en bas de chez elle, il l'appelle tout le temps, il lui propose des dates et des trucs, elle finit par accepter, et en fait, au lieu de l'amener au resto, il la coince dans sa voiture, elle s'échappe, il essaie de la violer, machin, et donc, elle se rend compte que je crois qu'elle dit que quand tu jettes un sort, tu reprends trois fois dans ta face ce que t'as lancé en gros. Mmh. Et là, ça devient un vrai truc. Ouais. Et pour le coup, ça parle aussi de consentement, de machin, ce que le film de 2020 essaie d'aborder, mais de manière hyper ridicule, hyper premier degré.
Ouais, et puis dans un cours, quoi.
Ouais, et puis ce mec-là, du coup, ce personnage de Timmy, donc devient super woke. En fait, il devient plus ou moins le PC principal de South Park. C'est le même type de personnage, sauf que dans South Park, c'est une caricature. Là, c'est un personnage hyper premier degré. Et donc, elle le regarde toute là avec des grands yeux, genre c'est l'homme parfait. Et j'ai vu une interview de la réalisatrice où elle dit ça aussi, genre c'est le modèle de l'homme parfait et tout. Et en fait, je dis ouais, mais en fait, le modèle de l'homme hyper woke, parce que tu l'as juste lavé le cerveau. Et c'est un peu compliqué de dire ça et d'avoir une note d'intention comme ça dans ton film, quoi.
Et en plus, avec la lecture du premier, moi je sais que pendant tout le film, je me suis demandé quand est-ce qu'elles vont se prendre un retour de bâton ? Quand est-ce que ça va mal tourner ?
Le retour de bâton, c'est du Coveney. Et c'est, ouais, en fait, parce après, que... c'est, là pour le coup, je trouve qu'on est dans l'air du temps. Hein, c'est un peu, mais après, en fait, encore une fois, pour moi, par rapport à ça, c'est. En fait, j'ai beau ne pas être le public visé pour ça, j'ai envie de dire, mais moi, en fait, si c'est tes opinions, si c'est tes convictions, mais vas-y, quoi, va à fond. Au moins, si on s'éclate et si c'est fun et si tu mets. Parce que le problème de Duchovny, c'est que c'est un masculiniste con comme ses pieds, etc., tout ce que tu veux, etc. Mais si c'était drôle, en moins, si c'était satirisé, c'était un truc, en fait, qui était hyper fun parce que tu te dis, mais tu vois, ou même le mec qui serait comme ça dans la vie, il se dirait, mais non, ça, c'est pas possible, ça va trop loin.
Tu comprends pas comment sa mère kiffe ce mec, tu vois,
déjà,
tu
vois,
ouais. Il n'y a pas de sens.
Voilà, la scène de morphing où il se transforme en espèce de monstre.
C'est la plus belle scène du
film. Ça m'a beaucoup fait rire.
Ouais, mais c'était pas prévu pour.
Ah non, je pense que non. Non, mais là, c'est un gros effet spécial pourri. Enfin, voilà, mais c'est ce qui est problématique, en fait, voilà, c'est qu'on rigolait avec la phrase que je trouve assez magique d'Eric, en fait, il y a une petite fille goth de 16 ans qui sommeille en moi. Le problème, c'est qu'en fait, il y a aussi ce truc, c'est que c'est pas du tout un film gothique. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est quand même un des éléments, je pense, de. Appelons ça une franchise, puisque c'est comme ça qu'il le voit, hein, Jason Blum. Et c'est quand même un des problèmes du truc, c'est qu'en fait, je pense qu'à l'époque, The Craft a aussi fonctionné à cause de ça. C'est-à-dire qu'en fait, il fonctionnait sur les deux tableaux. C'est-à-dire, il y a le tableau féministe, mais il y a le tableau, en fait, gothique, fantastique, etc., etc., qui est exploité, moi, je trouve, de mémoire, hein, un petit peu légèrement. Mais alors, c'est carrément. C'est l'exorciste à côté de celui-là, quoi.
Ah non, mais à l'époque, c'était léger, parce que ça restait un film pour ados. Teen, mais ouais. Effectivement, c'est ça qui faisait que. Moi aussi, j'avais une âme d'ado goth à l'époque. Ouais, ouais. Et c'est ça qui m'a plu, parce que
toi, c'est
un film.
C'est peut-être plus cohérent que.
Non, mais c'est un film qui, à l'inverse des teen movie classiques, s'adressait aux Misfits quand ils disent les weirdos, c'est nous.
La phrase, elle sonne juste, quoi.
Voilà, ça sonnait juste. Et moi, je m'identifiais quand j'avais 13 ans. Alors que là, ça fonctionne pas.
Puis le film original, il était, je crois qu'il était classé R, et celui-là, c'est clairement un PG-13, et tu vois la différence. En fait, il y a pas, il y a une imagerie un petit peu sombre, des passages un petit peu fantastiques et tout. Là, il y a absolument rien. Puis même, il y a la scène où, en fait, celle qui était le personnage de Rochelle, je crois qu'elle s'appelle dans le premier, ouais, qui est le personnage noir, subit le racisme de la blonde machin, et elle lui jette un sort, et la blonde perd ses cheveux, et pendant tout le film, on la voit dépérir, décrépir et tout, et ça, c'est rien que cette perte de cheveux est plus choquante que tout le film de 2020, quoi.
Oui, parce que c'est ça, en fait, tu l'as pointé du doigt, hein, l'utilisation des pouvoirs, mais en fait, c'est vrai, l'utilisation des pouvoirs, c'est tout simplement zapper d'acheter un briquet pour faire cramer le
l'ongle briquet, c'est
le truc du l'ongle briquet, tu vois. Elles font apparaître des coquelicots et des hirondelles, là,
ou des papillons,
quoi,
je crois.
Des papillons, quoi.
Et puis elle se maquille à un moment.
Voilà, c'est ça, tu vois, comme dans Total Recall, là, tu vois. Donc en fait, c'est vraiment un truc où tu te dis, mais tout ça, vous pouvez le faire en vrai, en fait, c'est pas un problème, quoi.
Et quand ça prend une tournure un tout petit peu inquiétante, ah bah elles décident tout de suite d'arrêter leur pouvoir.
Oui, c'est ça, c'est que dans l'original aussi, elles ont un truc où les unes les autres, elles se jettent des sorts pour s'empêcher de pratiquer la magie. Puis là, en fait, dès que ça dérape un peu, enfin, ah non, tu lui as jeté un filtre d'amour pendant qu'on n'était pas là, du coup, t'es puni, on t'enlève tes pouvoirs. Et en fait, pof. Ça s'arrête tout de suite, quoi. Et c'est là que le grand méchant apparaît.
Non, c'est même pas ça. C'est elle décide de s'enlever les pouvoirs.
Oui,
à elle-même.
Ouais. C'est genre, on est tellement raisonnable qu'on va s'auto-censurer.
C'est les sorcières modèles, en fait.
Ouais.
C'est chaud.
Oui.
Quand même.
Bon. Et si on peut revenir quand même juste sur ce grand méchant, moi, je veux bien. Hein, moi, je l'attends toujours, le grand film d'horreur féministe qu'on nous promet depuis très longtemps. Mais tant qu'on montrera des grands antagonistes super méchants qui trouvent rien d'autre que de dire de toute façon, nous, on est les hommes, on est les maîtres, et claquer des doigts comme ça dans des réunions nulles. Et quand même, ce qui arrive au personnage de Timmy, c'est qu'on comprend que c'est le personnage de Duchovny qui l'a tué. Tu dis, c'est donc ça le plan du patriarcat, c'est de tuer un lycéen qui était devenu woke. Mais c'est fou. Et tu dis, bah, en fait, comment.
Woke et homo.
Et homo, ouais, parce qu'il a couché avec son fils. Mais ça, c'est même pas, ça revient même pas. Ça aurait été au moins une meilleure justification, parce qu'il dit qu'il a couché avec un des deux frères de la famille. Et tu dis, au moins, ça aurait été une justification. Genre, t'as couché avec mon fils, je suis un mascu, je veux pas. Donc voilà, mais là, ça revient même pas. Donc, je pense qu'il y a des trucs qui ont été coupés.
Je pense que ça, c'est coupé parce que justement, en fait, tu vois, je pense qu'on rentre dans un cadre où, à vouloir vraiment rentrer dans les clous de ce qu'on va en penser, en fait, si tu veux, et surtout la cible, si tu veux, initiale du projet, quoi. C'est-à-dire les gosses de 15-20 ans, quoi. Le souci, c'est que ça peut être interprété. Mmh. C'est-à-dire, ah, mais dans votre film, le méchant est homophobe, par exemple, si tu veux. Donc votre film est homophobe. Sauf que c'est pas forcément ce qui serait arrivé, mais c'est ce dont ils ont peur.
Ouais, ils se prémunissent de tout.
Et du coup,
quoi.
En fait, ils se prémunissent de tout. Et voilà, c'est-à-dire que tu te retrouves dans un système où.
Mais du coup, ça n'a pas de sens, parce que le mec, il l'a tué. Le seul truc qu'a vu le personnage de Duchovny, c'est qu'il a proposé à la mère de famille de l'aider à porter le poulet à table. C'est littéralement la seule scène qu'ils ont en commun. Non, mais c'est vraiment ça, quoi. Du coup,
tu dis,
putain, c'est un peu chaud, quoi. C'est compliqué. Et c'est un peu comme le remake de Black Christmas qui est sorti il y a 2-3 ans. Et c'est pareil, c'est une secte masculine qui est derrière. Et à chaque fois, c'est des trucs hyper grandiloquents. Et tu fais, mais non, mais en fait, le patriarcat, c'est pas des mecs avec des capes qui vont dire des trucs. C'est, en fait, je sais pas comment tu veux faire un film woke en ayant des enjeux aussi caricaturaux qui tombent. Place
et surtout, encore une fois, si tu allais jusqu'à fond dans tes convictions et que tu tournais ça en satire absolue, tu vois, je pense que ça pourrait être rigolo à regarder. Mais là, c'est le problème de ce film-là pour moi, c'est-à-dire que c'est un film qui est pas fun du tout. C'est-à-dire, c'est même pas rigolo. C'est-à-dire, effectivement, on rigole du morphing ou de trois trucs d'un autre temps, quoi, tu vois. Mais le film est pas drôle. C'est-à-dire, il est sinistrement premier degré. Et c'est vraiment, en fait, c'est un verre d'eau, le truc, quoi. C'est-à-dire, tu l'as bu et en fait, tu fais, putain, il s'est rien passé, en fait. Donc, c'est... Ouais. Bref, ouais. Bon, je ne suis pas la fibre.
Je crois que c'est une parfaite conclusion, hein, ce film, donc on ne va pas le voir,
non,
je crois.
Non, on regarde. Je ne sais pas pourquoi on l'a traité, en fait. Ah si, en fait, je balançais, si, parce qu'en fait, quand, au tout début, quand on a lancé ça le temps pour un film, si, je balance un peu, quand même. En gros, je me rappelle, quand on a lancé le truc, je fais, ah, les gars, la semaine prochaine, parce qu'on avait lancé ça juste avant le confinement, les gars, la semaine prochaine, on en parlait avec Eric. Il y a The Craft, en fait, qui sort. Et là, vous avez fait toi, Clémence, je te pointe du doigt,
oui,
toi, Clémence et Eric, vous avez fait, ah ouais, mais faut en parler.
Bien sûr.
Et donc, j'ai fait, bon, ok,
je fais mon mea culpa aujourd'hui, je regrette.
Non, mais je balance parce que voilà, tu vois, il faut que je me défausse un peu.
Oui, ce n'est pas toi qui as choisi ce film. Non, mais tu l'as regardé quand même, tu l'as suivi.
Je l'ai regardé, non, mais c'est vrai que voilà, effectivement, on l'a regardé pour vous, faut pas le regarder. Voilà.
Voilà. Ne le regardez pas, regardez plutôt
l'original. Si, regardez-le quand même pour donner, des... pour donner votre avis.
Regardez plutôt l'original. L'original qui a, pour le coup, plutôt bien vieilli. Hein. Les films des années 90 qui tiennent le coup en 2021, il n'y en a pas tant que ça. Et celui-ci, je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal. Vous en pensez quoi ? Une petite pensée pour Eric. Hein. Eric, si tu nous entends, laisse-nous un message sur le répondeur de Capture Mag. Va sur Messenger et dis-nous ce que tu en as pensé. On veut tout savoir. Et puis vous aussi, donnez-nous votre avis. Hein. Un petit mot, une courte phrase. Laissez ça sur notre Messenger. Dans la dernière émission, on parlait de Mon Cousin, la comédie de Yann Kounen. Est-ce que vous l'avez regardé ? Alain, dis-nous tout. Ils en ont pensé quoi, nos auditeurs ?
Hello Capture. Alors moi, bizarrement, j'ai beaucoup pensé à David Fincher en voyant le film. Je me suis surpris à faire des associations pendant les scènes d'intérieur, dans la gestion des cadres, dans l'utilisation du décor. Je sais que Kounen faisait des renvois très conscients à Fight Club dans 99 ans. Donc j'imagine que c'est une influence qui est assez dominante dans son cinéma.
J'avais vu Mon Cousin au cinéma et je me retrouve un peu dans ce que chacun a pu dire sur le film. J'ai eu du mal avec la façon dont sont amenés les attendus de ce sous-genre. Je trouve que Kounen n'a pas su totalement se réapproprier ce projet. Donc, même si ça déborde d'idées de mise en scène, on va dire qu'une fois sur deux, ça marche. Mais comme Arnaud, je reste très touché par ce film, en particulier par Lindon qui est magnifique. Bref, je suis mitigé, mais j'ai de la tendresse pour Mon Cousin.
Je vous recommande vraiment ces films en VR, notamment celui sur l'ayahuasca. Il y a tout un jeu, alors je pense qu'il n'est pas volontaire, avec les câbles du casque et puis les images, enfin l'expérience qui se vit. Et c'est quelque chose d'assez fascinant. Donc là aussi, un cinéaste français qui est très à la pointe de la technologie. Et puis voilà, je pense qu'il est précieux.
C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à toi.
Stéphane, merci aussi.
Merci Clément, on se met toujours là, moi, tu sais.
Alain, merci pour la technique. Pour suivre les prochains épisodes, vous savez où nous trouver, on ne bouge pas. Et si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement les tipeurs et les tipeuses. Ce projet existe grâce à vos contributions sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Imaginez tout ce qu'on peut faire avec 5 euros par mois. Vous pouvez nous aider à rester indépendants et à garder notre liberté de ton. Et je vois Stéphane qui se frotte les yeux.
J'ai rien dit, vas-y, continue.
Mais oui, contribuez au Tipeee de Capture Mag. Et puis, si vous n'avez pas de sous, c'est pas grave, hein, y a d'autres moyens pour nous soutenir. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, parlez de nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Plus vous serez nombreux, plus on pourra financer de nouveaux formats vidéo. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien et à vendredi prochain.